Devoir d'Anna Leclésio. Alors Anna, il y a un truc évident, assez pas clair. T'es pas assez rigoureuse dans la construction de l'analyse. Et surtout, tu définis pas le sujet. Tu définis pas le mot principal, enfin l'expression principale, c'est enjeu poétique. C'est quoi l'enjeu poétique? Les enjeux poétiques, c'est ce qui est en jeu, ce qu'on a à perdre ou à gagner, et qui ont le pouvoir politique. Et donc derrière, eh bien, ça veut dire que l'histoire et la mémoire des conflits du XXe siècle peuvent diviser ou peuvent rassembler. Et à partir de là, bah, tu pouvais faire ton plan. Et donc, c'est jamais clair, hein, donc, dans ce que tu dis. Tu parles sur l'amnésie, donc voilà, bon, bah, pourquoi pas. Quels sont les enjeux politiques de l'histoire et de la mémoire dans les conflits? Bah, je te mets égal point d'interrogation, parce que tu reprends le sujet, tu le reformules. De la même façon, d'accord, c'est bien, mais c'est en y répondant que tu trouves quand même la problématique, hein. L'enjeu poétique de l'histoire, d'abord, hein, donc ici, et l'enjeu poétique de la mémoire. Donc voilà ton plan. Or, ici, l'histoire, lorsqu'elle est manipulée, hein, donc, par le pouvoir, elle se met au service du pouvoir politique pour diviser ou pour rassembler, hein, d'accord. Donc généralement, c'est plutôt pour rassembler. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est encore de l'histoire lorsqu'elle est manipulée ainsi? Donc, parce que l'enjeu de l'histoire, c'est un enjeu scientifique. Hein, donc c'est plutôt la mémoire qui est l'objet de manipulation par c'est un enjeu pour les pouvoirs politiques, parce que ça va permettre de diviser. Enfin, généralement, ça peut permettre de diviser. Ça peut permettre. Le pouvoir politique cherche plutôt à rassembler, éventuellement à insister sur la division du point de vue international, hein, par exemple l'utilisation de l'histoire par la Russie actuellement, hein, contre l'Occident, ça c'est évident, mais en interne, hein, donc à une échelle nationale, l'enjeu politique est plutôt celui du rassemblement. Hein. Donc, c'est ça qu'il fallait voir. Et je crois que ben, voilà, ton choix de plan, ça va pas, quoi. Hein. La mémoire représente également un enjeu politique. Quand je tourne la page, bah, lequel, hein, voilà, dis-le. Hein. Et donc, je te mets égal point d'interrogation à la fin de ton introduction, parce que jamais tu n'as parlé de cet enjeu politique, hein, de rassembler ou de diviser. Alors, tu pars sur l'enjeu poétique de l'histoire, donc je t'ai déjà expliqué ce que j'en pensais. Hein, donc, bon, après, on va voir ce que ça donne. Donc, tu commences à reprendre la Première Guerre mondiale, mais t'as pas besoin de. Puis en plus, tu fais des erreurs, quoi. Donc, on n'a pas besoin de ça. Donc, ici, on part tout de suite, hein, donc, de la question des responsabilités qui se pose dès le traité de Versailles. Hein, donc, bah, passe tout de suite au traité de Versailles. Et die Kriegsschuldfrage, bah, voilà, ça devient un enjeu politique. Pourquoi? Et il n'est pas entre les historiens, c'est entre les pouvoirs politiques, c'est entre les États. Qui est responsable? Eh bien évidemment, la France accuse l'Allemagne. Et donc tous les pays vainqueurs vont faire de même. Et il n'y a guère que des historiens pacifistes comme Julisa qui essaient de montrer que ben, si on creuse bien, finalement la question des responsabilités est davantage partagée. Mais il n'est pas suivi. Hein, donc. Voilà, et donc quant à Pierre Renouvin, hein, il pointe la responsabilité allemande, effectivement, et lui, bah, l'enjeu politique, c'est parce qu'il fait aussi partie de la délégation qui négocie les traités d'après-guerre, hein, donc il est un petit peu utilisé. Alors en 61, la controverse Fischer, là, qui est intéressante, pourquoi à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'elle fait scandale? Bah, parce que les Allemands ne veulent plus. Bah, dit bon, bah, ça y est, on a été responsable de la Première Guerre mondiale, ce qu'on n'admet pas, mais on ne peut pas nier notre responsabilité de la Seconde Guerre mondiale, hein, le nazisme. Et ils n'ont pas envie de. Bon, ils disent, bon, ok, d'accord, ils n'ont pas envie qu'on leur rappelle ça. Hein, donc, bah, voilà pourquoi elle choque. Hein. Et donc. Et Christopher Clark, pourquoi est-ce que c'est bien accueilli? Ben parce que c'est bien accueilli en Allemagne. Tu me dis bien, 12 rééditions. Je te dis pourquoi? Ben parce qu'il montre qu'il y a des responsabilités partagées, qu'il faut aller voir du côté de la Russie. Ben finalement, ben c'est plutôt bien vu par un pays qui s'est réunifié, qui cherche l'unité, et puis qui cherche surtout la puissance. Hein. Donc ça y est, l'Allemagne est réunifiée, peut prétendre jouer un rôle, voilà, hein, donc ici, sans être accusé d'impérialisme, etc. Donc l'enjeu est important et là, tu ne montres pas. Alors tu pars sur la guerre d'Algérie, donc tu parles d'un enjeu politique de l'histoire, je suis toujours pas d'accord, hein, donc voilà, on ne parle pas d'enjeu politique, à part que là, t'aurais pu le démontrer, c'est pas totalement faux, parce que en Algérie, il y a un enjeu politique important qui fait que les archives ne sont pas toujours accessibles et que les historiens algériens ne peuvent pas vraiment travailler. Regarde le témoignage de Mohamed Harbi dans ton manuel, hein. Et pourquoi? Parce que le FLN est au pouvoir, que ce n'est pas un État véritablement démocratique, hein, et qu'il a intérêt à ne pas favoriser des travaux qui montreraient, travaux historiques qui montreraient que le FLN eh bien, a éliminé hein, les autres mouvements indépendantistes pendant la guerre d'Algérie. Donc ça, mais ça, tu ne l'as pas mis. Hein. Alors après, tu dis que des retombées sur la politique française, passage à une quatrième, mais non, on passe à une cinquième république. Donc là, le général de Gaulle, il a besoin d'unité, parce que ça se fait dans la division hein, des Français au sujet de l'Algérie. Donc, il a besoin de l'unité, et donc il est assez peu favorable pour écouter donc les différentes mémoires qui vont apparaître, hein, et puis créer des lois d'amnistie. Hein, donc, alors tu passes. Moi, ce que je te reproche aussi, c'est de ne pas respecter la chronologie, hein, parce que là, tu parles donc de 2003. C'est pas un programme scolaire, c'est une loi qui voulait que les programmes scolaires affirment le côté positif du colonialisme. Et là, il y avait un enjeu politique évident puisque c'était une loi qui était proposée sous Jacques Chirac, président de droite, hein, donc ici et donc. On a avec après 2002, hein, donc ici donc un gouvernement de droite, et donc c'était une loi portée par un député qui représentait la communauté pied-noir. Hein, donc là, l'enjeu politique, il est évident, on est bien dans la mémoire là. Bon, donc je trouve que c'est confus, hein, donc tu parles de 2003, tu reviens à 99 et tu repars sur 2003. Et tu dis qu'Emmanuel Macron a reconnu les souffrances vécues par qui? Ben, par les harkis. Hein. Et donc pourquoi est-ce qu'il fait il reconnaît ici, il demande pardon par souci de réunification, hein, d'unité, hein, et d'essayer dans une France qui est parcourue par des tensions entre les différentes générations, hein, et puis notamment après les émeutes donc de l'été 2022, si je me souviens bien. Donc après tu pars sur l'enjeu politique de la mémoire. Alors bien sûr, hein, une place centrale, mais laquelle? Ben, ça permet d'opposer internationalement, par exemple, hein, de se réaffirmer entre France et Algérie, je prends cet exemple-là, ou de la Russie, hein, mais ici, donc, ce qui est important, c'est de voir aussi que c'est pour unifier hein, en interne. Alors, tu prends ici le génocide des Juifs, ben voilà, l'enjeu, c'était pas la conservation des documents, c'était d'essayer, dans cette société fracturée, je pense société française, de plus évoquer la responsabilité de la France, hein, de l'État français, dans la déportation. Donc je crois que tu n'y es pas. Après, confusion entre Hannah Arendt et Annette Wieviorka, bon, encore, c'est pas trop grave, hein, mais parce que... Puis après, tu t'éloignes. Moi, je crois que tu t'éloignes du sujet, tu pars sur les lieux de mémoire. Auschwitz n'a jamais été complètement abandonné, hein, mais bon, il est peu mis en évidence, hein. Puis de toute façon, voilà, quel est l'enjeu poétique indéniable du musée juif à Berlin ou du mémorial de la Shoah? Ben ici, de montrer qu'il y a une reconnaissance hein, de la mémoire donc juive, c'est surtout ça, hein, et notamment en Allemagne. Hein, donc là, l'objectif poétique, c'est de dire, ben voilà, nous sommes une nation allemande qui reconnaît ses fautes, hein, et donc c'est une caution démocratique, et puis... une volonté d'apaisement. Et donc ce que fait en 95 le président Jacques Chirac, c'est qu'il reconnaît la responsabilité de l'État, hein, de la France dans la déportation. Et ça, tu le mets pas, quoi. Puis tu repars sur Nuit et Brouillard, puis sur Marcelo Fulz. Donc c'est confus du point de vue chronologique. Donc voilà, tu dis toujours en conclusion que l'enjeu politique est devenu central sans l'identifier. Hein, et donc et tu pars sur le négationnisme, ben, bien sûr. Là, il y a un enjeu politique important. Là, l'histoire a un rôle politique important pour réaffirmer la vérité, pour lutter contre les thèses révisionnistes, négationnistes de l'extrême droite. Donc, globalement, Anna, c'est pas abouti. Il y a des choses que tu connais, il y a un défaut de. Enfin, il y a une absence de définition du sujet qui te porte préjudice là. Et donc, c'est qu'est-ce que c'est que les enjeux poétiques. Et là, le plan de départ, il n'est pas bon. Hein, c'est pareil, histoire et mémoire. Alors, je te mets, on est à 10, hein, pas plus, hein, à cause de ces défauts. Hein. Mais tu dois pouvoir hein, donc arriver à faire mieux en clarifiant les choses, en étant plus rigoureuse et plus claire hein, sur ce que tu as à démontrer.